Aujourd'hui, j'aimerais faire vibrer en vous la fibre nostalgique avec ce message dans notre série sur la prière. Et ce message, je l'ai intitulé « Je me souviens ». Ça doit évoquer quelque chose dans vos têtes. Alors que je n'existais que dans les plans de Dieu, peut-être que eux certains se rappellent qu'au milieu des années 1900, peut-être vous étiez jeune à ce moment-là, les écoliers de la province faisaient un salut au drapeau québécois et terminaient la cérémonie par la devise « Je me souviens ». Peut-être qu'il y en a certains qui se rappellent de ça. En 1978, le gouvernement, l'évêque, décide d'inscrire cette phrase-là sur les plaques d'immatriculation dans le cadre de sa politique souverainiste. Parce que avant, est-ce que quelqu'un se souvient qu'est-ce qui était écrit sur nos plaques d'immatriculation?
La belle province.
C'est dans les plus jeunes qui ont répondu. La belle province, exactement. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien beau de dire « je me souviens », mais la grande question, c'est « je me souviens de quoi ?» De quoi est-ce qu'on se souvient? Et ça a beaucoup été débattu, mais avant d'être trois mots sur une plaque d'immatriculation, c'était trois mots qui étaient inscrits sur le fronton de l'hôtel du Parlement en 1885. Et c'est Eugène-Étienne Taché, l'architecte de l'édifice qui a créé, en fait, la devise du Québec. Et on trouve aucun texte où Taché va expliquer pourquoi est-ce qu'il a utilisé ça ou qu'est-ce qu'il voulait dire par là et de quoi il voulait qu'on se souviennent. Mais en fait, on est capable de l'expliquer par l'objectif finalement de l'hôtel du Parlement. En fait, il voulait faire l'hôtel, le fronton du moins du Parlement, il voulait le faire à la mémoire des grands personnages de l'histoire nationale. Il voulait créer carrément un panthéon des héros de l'histoire du Québec. Alors, on comprend à ce moment-là que ce dont il voulait qu'on se souvienne, c'était de ces personnes-là. Mais ça reste qu'il y a plusieurs Québécois qui se souviennent de d'autres choses quand on peut penser à cette devise-là. Les sportifs se souviennent de la 24e Coupe Stanley de 1993. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Gagnée par les Canadiens la dernière Coupe. Hey, ça fait un bout de temps. Les souverainistes du presque gagné référendum de 95 et ceux qui ont plus de 25 ans se souviennent de la fameuse crise du verglas en 1998. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'inspire de cette devise pour nos vies de prière. Nous allons apprendre à nous souvenir, à utiliser la prière pour se souvenir de la fidélité de Dieu, pour stimuler notre foi, pour réaliser le chemin que nous avons parcouru, pour réaliser aussi notre besoin de Dieu et aussi pour raconter les merveilles de Dieu qu'il a accomplies par le passé. C'est exactement ce qu'on fait entre autres Asaph et David, deux auteurs du livre des Psaumes. Un recueil de cantiques, mais on peut le dire autrement, on pourrait dire carrément des prières chantées, pourquoi pas. Et comme on a vu la semaine dernière, on retrouve toutes sortes de prières dans la Bible et le livre des Psaumes ne fait vraiment pas exception. Il comporte plusieurs sortes de prières. On y retrouve des chants de lamentation, des chants de reconnaissance, des chants de sagesse, de confiance, mais aussi de souvenir. C'est un type de psaume bien précis dans lequel l'auteur se souvient de ce que Dieu a fait dans le passé et de l'histoire du peuple d'Israël. Pour ceux qui sont moins familiers avec la Bible, je veux juste placer un peu le contexte pour qu'on comprenne bien les textes d'aujourd'hui. Le contexte du peuple d'Israël, et ça nécessite de remonter jusqu'au début de l'humanité. OK, mais je vous fais un petit résumé là, en une ou deux minutes. Ce ne sera pas en détail, vous comprendrez. Mais donc, on remonte à Adam et Ève qui, au lieu de faire confiance à Dieu et de lui obéir, ils l'ont défié et ont refusé de se soumettre à lui. Et à cause de leur transgression, ils ont été séparés spirituellement de Dieu et ils ont introduit en fait le péché et la mort dans le monde. Alors que Dieu avait créé parfaitement la terre et qu'ils étaient en parfaite relation en fait, homme, femme et même le reste de la création était en parfaite relation et évidemment avec Dieu. Et malgré le mal qui habitait donc dans le cœur de l'homme, Dieu lui il reste miséricordieux. Il a choisi un homme, Abraham, au travers duquel il accomplirait la promesse de lui donner une terre, une descendance, et aussi il lui a dit qu'il allait être une bénédiction pour la terre entière. Abraham et toute sa famille, à l'époque, à une certaine époque, ils étaient 70, donc peu nombreux. Et en fait, il va y avoir une famine. Ils vont se retrouver, donc puisqu'il y avait la famine dans leur pays, ils vont se retrouver en Égypte, où là-bas, il y avait de la nourriture pour toutes sortes de raisons. Vous irez lire le livre Genèse, Exode, c'est magnifique. Mais bref, donc, ils vont se retrouver en Égypte et c'est là-bas qu'ils vont devenir vraiment un grand peuple, en fait. Ils vont devenir très nombreux et si bien qu'ils vont devenir esclaves de l'Égypte, en fait, des Égyptiens. Jusqu'à ce que Dieu les délivre sous la direction de Moïse avec les 10 plaies d'Égypte, entre autres. Et Dieu va ensuite instaurer tout un système de lois. C'est là qu'on retrouve les 10 commandements, dont l'objectif, c'est vraiment d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ça, c'est le fondement de toute chose. Et si Israël obéissait aux commandements de l'Alliance, il serait béni pour 1000 générations. Mais s'il transgressait ce que le Seigneur ordonnait, il subirait les conséquences. C'est ce que Dieu disait à son peuple. Et en chemin pour la terre promise qui avait été promise à Abraham, Israël s'est rebellé. Comme Adam et Ève, au lieu de faire confiance au Seigneur, de lui obéir, les Israélites se sont tournés vers les idoles. Au lieu de bénir les nations, maintenant Israël se laissait corrompre par les nations. Au lieu d'entrer dans la terre promise, ils vont devenir nomades pendant 40 ans au désert. Et Dieu a utilisé cette période-là pour préparer le peuple et aussi travailler leur cœur. Et malgré leur manque de confiance et leur rébellion, nous voyons Dieu, c'est spécial parce qu'on voit Dieu prendre soin de ses enfants dans le désert par des miracles, en envoyant du pain, des oiseaux qui deviennent leur nourriture, qui deviennent de la viande, en faisant jaillir de l'eau dans le désert. Okay? Pas pire miracle ici. Et donc, avec ça en tête, c'est avec ça qu'il faut lire les deux psaumes qu'on va lire aujourd'hui, dont le psaume 78 d'Asaph, qui commence comme ceci. « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. » La sagesse du passé. Et par la suite, pendant plus de 70 versets que je ne lirai pas parce que ça fait quand même plusieurs pages, l'auteur parle de l'histoire d'Israël et de la façon dont Dieu a conduit son peuple jusqu'à la terre promise. Et voici ce qu'on lit dans ce psaume-là à propos de Dieu. Comment Dieu il était? Comment il est décrit dans ce psaume-là? J'ai pris toutes les phrases qui décrivaient Dieu et je vous les lis ici. Dieu a accompli des merveilles. Il a fait des miracles en Égypte et des prodiges. Il a fendu la mer pour les laisser passer. Ils ont traversé le Jourdain, le peuple. Il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fendu des rochers dans le désert et il leur avait donné à boire en abondance. Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau, comme des fleuves. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne, c'est la viande dont je parlais tout à l'heure, comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Il leur a envoyé de la nourriture à satiété. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré. Il est celui qui les rachète. Dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il les a délivrés de l'ennemi. Il avait fait partir son peuple comme des brebis. Il les avait conduits comme un troupeau dans le désert. Il les avait guidés en toute sécurité pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer avait recouvert leurs ennemis. Il leur avait distribué le pays en héritage. Dieu est bon. Amen. Mais là, justement, la particularité avec ce psaume du souvenir, c'est la façon dont le peuple d'Israël est décrit. Asaph met en contraste la fidélité, comme on vient de voir, la fidélité et la bonté de Dieu envers le peuple, avec justement Israël qui le rejette sans cesse. Voici les caractéristiques que j'ai retrouvées dans le psaume 78 d'Asaph. Et vous allez voir, ils n'ont pas bonne réputation. Okay, ça part mal pour eux. C'est une génération désobéissante et rebelle. Une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ils ont continué à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu, attristé le Saint d'Israël. Ils ont parlé contre Dieu. Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas eu confiance dans son secours. Ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ses merveilles. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance et n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés de Dieu et ont excité sa jalousie par leur idole. Wow! Ils n'ont pas un bon CV, OK? On pourrait le dire demain. Ça marche pas bien leur affaire. Et j'aimerais vous proposer qu'une des raisons clés pour lesquelles le peuple d'Israël s'est retrouvé dans cette situation, c'est qu'ils ont arrêté de se souvenir qui est Dieu et de ses exploits. Versets 10 et 11, on lit ceci. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à la loi, à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Et verset 42-43 nous dit « Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges. » En fait, Asaph ici ne fait que confirmer ce que Dieu avait annoncé, que si le peuple ne se souvenait pas de Dieu, il périrait. Voici ce qu'on lit dans Deutéronome 8:1-20. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention! Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble à nous, occidentaux, qui sommes vraiment riches dans ce monde? Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si, attention, ici on a l'autre côté de la médaille, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. OK, avec le dos de la cuillère, c'est assez clair ici. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu, parce qu'ils ont oublié Dieu. Par sa parole, Dieu nous montre à quel point c'est important de se souvenir de lui. Et nous allons lire ensemble un autre psaume, le deuxième psaume que je veux qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Un autre psaume de souvenir qui cette fois-ci se concentre beaucoup plus sur le souvenir des actes de Dieu et moins sur la mauvaise attitude d'Israël. Dans ce psaume-là, c'est moins abordé. Et c'est le psaume 105 de David cette fois-ci que nous allons lire et étudier ensemble aujourd'hui. Mais avant, prions ensemble que l'Esprit de Dieu vienne agir dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons prier mieux, nous voulons prier plus. Apprends-nous à nous souvenir, à regarder en arrière, Seigneur. Apprends-nous à mettre en pratique ce que tu nous enseignes par ta parole aujourd'hui. Viens par ton esprit, Seigneur, illuminer la révélation que tu veux apporter à chacun de nous, Seigneur. Qu'on puisse être transformé par la puissance de ta parole et de ton esprit, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. On va lire donc le psaume 105, et suivez-moi, il n'apparaîtra pas ici à l'écran. Vous irez lire aussi le psaume 78 à la maison, qui est magnifique, mais qui est assez long. Et celui-là, le psaume 105 aussi, est assez long, fait que soyez, je vais essayer de lire lentement, mais écoutez bien, c'est beau, c'est vraiment, ces psaumes-là sont plus longs parce qu'ils décrivent justement, ils résument des grands pans de l'histoire. C'est pour ça que ça prend plus de temps en général. Donc, psaume 105, et je le lis dans la version seconde 21. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. Et par Christ, nous sommes aussi descendants d'Abraham. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, son fils. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan », c'est le pays promis, c'est l'héritage qui vous est attribué. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer. Et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays, comme je vous ai dit. Il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph. C'est des circonstances spéciales dont je vous parlais. Vous irez lire l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Joseph qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi d'Égypte l'a fait libérer, le dominateur des peuples l'a relâché. Il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse, à son gré, diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Il parle de Joseph ici. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Si vous connaissez l'histoire, Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Dieu a donné de nombreux enfants et à son peuple, il a rendu plus puissant que ses adversaires, les Égyptiens. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. C'est là qu'ils sont devenus esclaves. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité. Ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Il a changé leur eau en sang et là on entre dans les 10 plaies d'Égypte. Il fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout le territoire. Au lieu de la pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre, dans leur pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers et brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Elles ont dévoré toute l'herbe dans leur pays et ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi les nations. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ du peuple d'Israël, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites à cause de Dieu. Il a étendu la nuée pour les protéger et le feu pour les éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles. Il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides, car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Si nous, on l'oublie, Dieu, lui, n'oublie pas son alliance. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie. Il leur a donné des terres, les terres des nations, la terre promise, et ils ont tiré profit du travail des peuples afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Yes, wow! Comme David et Asaph, j'aimerais vous inviter à utiliser la prière pour se souvenir de Dieu et de ses bienfaits. Et les deux points que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est premièrement de prier pour se rappeler. Et deuxièmement, de prier non seulement pour se rappeler, mais pour raconter. On va voir de quelle façon on peut le mettre en pratique aujourd'hui. Quand nous prenons le temps de nous souvenir, quand nous prions pour nous rappeler, ça nous permet tout d'abord de se rappeler le chemin parcouru. Comme le peuple d'Israël, en se rappelant, comme on vient de lire, tout le parcours qu'il a fait, le voyage qu'il a traversé, et même dans le passage en Deutéronome, l'Éternel dit, ton Dieu t'a fait, souviens-toi de tout le chemin que ton Dieu t'a fait parcourir pendant 40 années. Mais le psaume 105 résume les différentes étapes du peuple d'Israël, la promesse à Abraham, le séjour en Égypte, l'esclavage en Égypte, la libération dirigée par Moïse, les dix plaies d'Égypte, la provision de nourriture dans le désert par Dieu, l'arrivée dans la terre promise. Et je veux nous encourager à prendre intentionnellement de réfléchir au chemin qui nous a amenés ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu es là en face de moi aujourd'hui? Quelle décision, quel chemin Dieu t'a fait prendre pour que tu sois ici aujourd'hui? Et c'est possible qu'en y réfléchissant, tu te rends compte que tu ne sais pas trop où tu vas en fait, que tu ne t'es jamais laissé conduire par Dieu dans ta vie. Et sache que c'est pas un hasard que tu sois ici aujourd'hui si tu n'as jamais pris cette décision de suivre Jésus, de te laisser conduire par Dieu sur le chemin qu'il trace devant toi. Tu peux choisir de le faire dès aujourd'hui. Et pour d'autres, ceux qui sont disciples depuis peut-être peu de temps ou plus longtemps, je remarque que plusieurs chrétiens se découragent ou s'impatientent parce qu'ils ont l'impression de ne pas avancer assez vite, que ça prend trop de temps pour ressembler plus à Jésus. Amen. Si on était capable en 6 mois de devenir parfait, okay, Jésus, il n'aurait pas eu à mourir sur la croix pour nous. Okay, il n'aurait pas eu besoin de faire ça pour nous. Prendre le temps dans la prière de te rappeler le chemin que tu as parcouru depuis le moment où tu as choisi de suivre Jésus te permet de réaliser que Dieu transforme ton cœur et ta vie graduellement. Je pourrais comparer ça, okay, au vieillissement. On ne voit pas les autres vraiment vieillir, OK? À moins, des fois, on dit, hey, cette personne-là a pris un coup de vieux, ça peut arriver. Mais en général, on ne voit pas les gens vieillir. Ça se fait tellement graduellement qu'on s'en rend pas compte. Mais par contre, quand tu ressors une photo d'il y a 10 ou 20 ans, c'est là que tu dis, ouh, OK, ouais, elle était pas pareille, hein, cette personne-là. Elle a pris toutes sortes de choses. Du poids, des plis, etc. Mais prier pour se souvenir, c'est regarder l'album photo de ta vie pour constater la différence entre aujourd'hui et hier, de réaliser le chemin que tu as parcouru. Tu peux aussi te demander où est-ce que je serais aujourd'hui si je connaissais pas Dieu. Et parfois, la réponse, elle est troublante même. Elle est troublante. Certains même ne seraient pas avec nous aujourd'hui. Ils seraient pas vivants même. C'est incroyable à quel point Dieu peut transformer des vies, des pensées, transformer n'importe quoi dans nos vies, des comportements qu'on ne fait plus, des péchés qu'on n'a plus, des combats qu'on n'a plus, etc. Et je nous encourage à faire ça, pas non seulement d'une façon individuelle, mais également en pensant peut-être à ta famille, à ton église, à ton couple. Quel chemin ton mariage a-t-il parcouru? Quel genre de dynamique familiale tu as maintenant? Comment elles ont évolué? Comment l'église grandit-elle? Et la réponse à cette question et le fait de se rappeler le chemin parcouru va éveiller 2 choses en nous. Notre gratitude et notre besoin de Dieu. Se rappeler le chemin parcouru éveille notre gratitude et notre besoin de Dieu. Notre gratitude devant la grâce de Dieu à cause des choses qu'il a transformées en nous, à cause de sa fidélité. Mais se rappeler le chemin parcouru nous montre aussi à quel point nous avons besoin de Dieu. Parce qu'en repensant au passé, on constate également nos erreurs, nos échecs, nos péchés comme le peuple d'Israël. Une des fonctions de la prière du souvenir, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Mais tu sais quoi? Même si c'est le cas, même si ton parcours éveille en toi davantage de regrets que de gratitude, sache que tu ne pourras jamais épuiser la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on comprend tout au long du psaume 78, que j'ai pas lu en entier tout à l'heure, mais je veux juste prendre quelques sections, puis vous allez comprendre. Je veux vous résumer la grâce de Dieu. Au verset 8, on lit que Israël était une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et là, tout de suite après, Asaph dit, bon, ben Dieu a fait des miracles, des belles choses, etc. Donc peut-être qu'ils vont retourner à Dieu. Mais non, verset 17. Mais ils ont continué de pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut. Et là, Asaph nous dit encore, ben Dieu a fait d'autres miracles. Il a envoyé de la nourriture, de l'eau dans le désert. Peut-être qu'ils vont retourner à Dieu. Mais non. Verset 32. Malgré tout cela, ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ses merveilles. Mais Dieu continue à leur donner une chance. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se retournent vers Dieu? Ben non, encore une fois, verset 56-57. Mais ils ont provoqué le Dieu très haut. Ils se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ce psaume nous montre que fois après fois après fois, Dieu fait grâce. Parce qu'au cœur de ce chant, en plein centre, voici ce qu'on lit à partir du verset 38. Israël, voici, ils font ça, mais ils continuent de faire ça, mais ils continuent de faire ça, mais ils continuent de faire ça. Et là, on a Dieu ici. Pourtant, lui, Dieu, pourtant lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère parce qu'il y avait des raisons d'être en colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'il n'était que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert, que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Quel contraste pourtant lui dans sa compassion. Dieu a tellement été gracieux jusqu'à même envoyer son Fils unique parce que après le peuple d'Israël, c'est le reste de l'humanité qui ont continué de pécher, de se rebeller contre Dieu. On fait la même chose dans nos cœurs, personnellement, individuellement et en tant que communauté. Alors, Dieu a envoyé dans sa grâce Jésus pour nous racheter, pour vivre cette vie, cette loi. Il l'a accomplie à notre place. La grâce de Dieu surpasse le péché, elle surpasse ta honte parce que peut-être que ton passé te rappelle ta honte, tes regrets, tes erreurs et même ton passé au complet. Le but de la prière du souvenir, c'est de faire en sorte que oui, tu choisisses dès aujourd'hui le bon chemin, que tu reproduises pas les mêmes erreurs du passé, que tu entres même, que tu demandes pardon pour tes erreurs auprès de Dieu et auprès des personnes que tu as blessées éventuellement. Mais puisqu'on sait que on va sûrement en refaire d'autres erreurs, mais Dieu pardonne même après la millième fois. Il va continuer d'être gracieux envers nous, même si sur le reste du chemin, on manque encore la cible. Quand tu pries pour te souvenir, prie en te rappelant le chemin parcouru pour éveiller en toi la gratitude et aussi ton besoin de Dieu. Mais aussi, rappelle-toi les merveilles de Dieu. La prière du souvenir, c'est se rappeler le chemin parcouru et les merveilles de Dieu également. Le psaume 105 commence comme ceci. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements descendants d'Abraham. Et le psaume se termine exactement comme il a commencé au verset 45. Louez l'Éternel. Se rappeler les merveilles de Dieu éveille notre adoration et notre foi. Notre adoration parce qu'en pensant à qui est Dieu et à ce qu'il fait, on ne peut que l'adorer. Parce qu'il est magnifique, ses œuvres sont merveilleuses. Souvenons-nous de ces merveilles pour pouvoir les célébrer, pour pouvoir l'adorer à cause de ça. Ce souvenir de ces merveilles éveille aussi et stimule en nous notre foi parce que ça nous permet de croire que ce que Dieu a fait par le passé, il va le faire encore. Ce souvenir permet de démontrer que le passé est garant de l'avenir. Si Dieu a été fidèle autrefois, il le sera encore aujourd'hui. Amen. Et pour conclure ce premier point, j'aimerais vous proposer quelque chose de très concret parce que pour pratiquer la prière du souvenir régulièrement, il faut être intentionnel, OK? On a tous croisé aujourd'hui la devise « Je me souviens ». OK? Sûrement demain aussi, on va croiser au moins une fois ou plusieurs fois même cette fameuse devise. Je me souviens. Pourtant, c'est quand la dernière fois que quelqu'un a pensé aux grands héros de la nation québécoise? Levez la main, ceux qui ont pensé cette semaine. Ça fait des années, probablement, peut-être dans votre cours au secondaire, quand vous aviez votre cours d'histoire du Québec. Mais bref, on n'a pas pensé à ces héros-là, voilà, dernièrement, en tout cas pas pour ma part. C'est pas tout de lire « Je me souviens » à tous les jours, il faut se souvenir pour se souvenir. Okay? Vous êtes d'accord avec moi? Se souvenir, c'est ça, faut être intentionnel, c'est faire remonter intentionnellement quelque chose à notre mémoire, parce que c'est pas parce que c'est emmagasiné là qu'il est sous nos yeux qu'on s'en rappelle. Voici deux choses bien concrètes pour mettre en pratique la prière du souvenir. Premièrement, lisez l'Ancien Testament. On peut aussi l'écouter, hein, s'il y en a qui aiment moins la lecture, ils peuvent aussi l'écouter, mais on est vraiment choyé quand même. Des fois, on prend pour acquis qu'on a appris à lire et à écrire. Il y a vraiment beaucoup de pays où ils ne peuvent pas le faire, donc profitons-en. Mais pour comprendre le nouveau, ça va t'aider de connaître l'Ancien, clairement. Ça, c'est assuré. Mais ce qui est spécial, c'est que pour comprendre l'Ancien, tu as besoin aussi de connaître Jésus, parce que la Bible est christocentrique. Donc, il y a plein d'indices messianiques à travers tout l'Ancien Testament. C'est vraiment une grande fresque. Ça va ensemble, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est se souvenir d'où vient la création, l'humanité, Israël et le Messie parce que le Messie vient du peuple d'Israël. Lire l'Ancien Testament, c'est vraiment se souvenir d'où on vient, alors qu'on puisse aussi, je sais que parfois peut-être on a plus tendance à lire le Nouveau Testament, mais connaissons aussi l'Ancien Testament, ça nous aide à développer cette espèce de pensée, du souvenir, du passé, de comprendre d'où on vient. Et ça nous fait réaliser à quel point l'œuvre de Dieu est encore plus grande que ce qu'on imaginait. Okay? Et le deuxième outil est vraiment efficace et vraiment intéressant pour exercer la prière du souvenir, c'est écrire un journal. Réalisez-vous que nous pouvons lire les psaumes aujourd'hui parce que les auteurs les ont écrits déjà et que David et Asaph ont écrit ces psaumes du souvenir parce que quelqu'un avait écrit l'histoire d'Israël. L'écriture, c'est vraiment le moyen que Dieu a choisi pour se révéler à nous. Et on peut utiliser aussi ce moyen aussi pour entrer en contact avec lui. Et je veux vous montrer, mais ça c'est mes journaux. Parce que moi, c'est ce que vous allez comprendre que moi, c'est quelque chose que j'utilise. Donc, je vous prêche pas quelque chose que j'aurais pas mis en pratique. Donc, ça, c'est mes journaux. Et mon plus vieux, c'est celui-ci, qui date de 1999. J'avais 7 ans. Et c'est quand j'ai commencé. En fait, j'ai donné ma vie dans les premières pages, je donne ma vie à Jésus. Et donc, j'ai développé vraiment cette pratique-là d'écrire dans mes journaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que régulièrement, j'y retourne et je lis les prières que j'ai faites à Dieu, les moments difficiles, les choses que Dieu m'a apprises, les réflexions que Dieu m'a apprises. Et c'est une des choses les plus précieuses dans ma maison que je voudrais sauver du feu, honnêtement. Donc, vraiment, je vous conseille d'ajouter ça à votre pratique de la prière. Et comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. On peut y retourner des mois, des années après. Après, pour se souvenir les merveilles, pour se souvenir aussi comment Dieu a répondu à nos prières, pour se rappeler le chemin parcouru, pour voir l'état dans lequel on était, dans les différentes saisons de nos vies, de voir la transformation qui prend place dans nos couples, dans notre famille, dans le monde, les réponses à nos prières, les réflexions qu'on a eues. Vraiment, écrire un journal, c'est un des meilleurs outils pour se souvenir. Et tu peux écrire une fois par semaine. Ça peut même devenir ça ton outil de prière. Tu peux écrire tes prières à tous les jours. Ou comme moi, j'ai pas, tu sais, pour toute ma vie, ça fait pas tant que ça là. C'est pas écrit à tous les jours, comme vous pouvez comprendre. Mais à chaque fois que je vis quelque chose de particulier ou que j'ai une réflexion ou quelque chose qui me pèse plus, je vais l'écrire là-dedans. Et Dieu répond. Hein, la prière, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et on voit que quand j'écris quelque chose, souvent Dieu va m'inspirer un verset ou quoi que ce soit. Il va répondre à ma prière et je vais pouvoir l'écrire. Je vais voir vraiment, vous pouvez voir les dialogues que j'ai avec Dieu là-dedans. Mais Donc, vous pouvez l'utiliser soit à toutes les semaines, soit une fois par jour, soit de temps en temps quand tu vis quelque chose de particulier, que ce soit positif ou négatif, pour garder les traces de ta vie. Et est-ce qu'il y en a à qui c'est la fête cette semaine? C'est-tu la fête à quelqu'un? C'est la fête à Muriel la semaine passée? C'est cette semaine? C'est cette semaine. Ça a lieu cette semaine? Bon, ben tiens, un petit journal. C'est pas un des miens, là. Il est vide. Okay. Mais c'est pour vous. C'est pour que vous le remplissiez vous-même. Ouais, c'est ça votre vie à vous. Mais en terminant avec ce deuxième point, plus rapide un peu, prier pour se rappeler nous permet par la suite de raconter. Une prière peut devenir un témoignage et une transmission. Lisons ce magnifique passage au début du psaume 78. C'est le verset 3 à 7. Lisons ensemble, c'est tellement beau. « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu et ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. » Voyez-vous l'idée de la transmission ici, du témoignage? Nous voulons nous souvenir de la puissance et des merveilles de l'Éternel pour les raconter à la génération future, pour qu'elle se souvienne, qu'elle l'expérimente elle-même, parce que c'est dit, nous avons entendu des choses, nos pères nous ont raconté quelque chose, on l'a entendu, mais maintenant nous savons. On veut raconter pour que l'autre puisse l'expérimenter à son tour, l'autre génération. Et qu'elle, même à son tour, en parle à la génération future jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, 2000 ans après les apôtres. C'est à cause de cette transmission-là du souvenir. Si tu mets en pratique régulièrement la prière du souvenir, si tu te rappelles les merveilles de Dieu, tu vas pouvoir les raconter aux autres. Rappelle-toi les merveilles de Dieu et raconte-les à tes enfants. Raconte-les à ta famille, à ton conjoint qui ne vient pas à l'église, à tes collègues. Et c'est ce que nous faisons quand les gens se font baptiser. C'est ce qu'ils font en fait. Ils se souviennent de leur relation avant, après Jésus et ils le racontent aux autres publiquement. D'autres le font en témoignant sur l'heure du dîner au travail, certains en publiant, des articles de blog, des vidéos. Quelqu'un de mon entourage a envoyé une lettre à tous ses frères et sœurs, qui pour la majorité sont pas chrétiens, pour témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie et pour partager la grande histoire de Dieu envers l'humanité. C'est quand la dernière fois que nous avons pris le temps de raconter les merveilles de Dieu à quelqu'un? Et je me pose la question à moi aussi. Racontons ces merveilles. C'est tellement la chose la plus merveilleuse à transmettre. Et j'aimerais terminer avec cette pensée. Ta vie de prière ne permet pas seulement de raconter les merveilles de Dieu aux autres, mais elle témoigne aussi et transmet un mode de vie, une habitude de prière. Et je veux encourager ceux qui, année après année, continuent, persévèrent dans leur habitude de prière. Sache que les gens le voient, tes enfants le voient, ils te voient aller prier, ton conjoint ou ta conjointe le voit. Tout ça, ça témoigne de quelque chose. Et pour illustrer cette idée, je vais vous lire les paroles traduites en français de ce chant qui s'appelle « Talking to Jesus ». Et c'est écrit par Brandon Lake et c'est interprété par lui, Brandon Lake, un artiste américain. Donc, Talking to Jesus, qui veut dire parler à Jésus. Et je veux vous lire les paroles. Évidemment, c'est moins beau que chanté par notre ami ici, mais je veux vous lire. Puis, portez attention aux paroles, évidemment. C'est vraiment magnifique, cette idée de la transmission. Grand-mère avait l'habitude de prier à haute voix. Près de son lit tous les soirs, pour moi, ça ressemblait à des marmonnements, comme si elle était hors de son esprit. Elle me disait, mon grand, ce genre de prière, c'est ce qui a sauvé ma vie. Tu devrais essayer un de ces jours. Et maintenant, je sais qu'elle avait raison. Elle parlait à Jésus. Elle a parlé à Jésus toute sa vie. Maman me traînait à l'église, dimanche matin et mercredi soir. Oh, comme je me suis battue pour ne pas y aller. Elle disait, fils, un jour, tu me remercieras pour avoir Dieu dans ta vie. Et oui, je sais qu'elle avait raison. Oui, ma maman avait raison. Parce que maintenant, je parle à Jésus. Elle m'a fait parler à Jésus. Oui, j'aime parler à Jésus. Et je parlerai à Jésus pour le reste de ma vie. J'ai 3 enfants maintenant, essayant de les élever correctement. Mon aîné a 15 ans et je me souviens de comment c'était quand on essayait de gérer tous nos drames, de comprendre les questions de la vie. Et j'ai cherché un moyen de lui montrer comment faire en sorte que tout se passe bien. Puis il est entré dans ma chambre pendant que je priais l'autre soir et il a dit, « Ah, je reviendrai plus tard, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses en tête. » J'ai dit, « Ce n'était pas une interruption. » Tu n'aurais pas pu choisir un meilleur moment parce que je parlais à Jésus. Viens et essaye aussi. Nous avons commencé à parler à Jésus. Et maintenant, il parle à Jésus. Dieu merci, il parle à Jésus. J'espère qu'il parlera à Jésus pour le reste de sa vie. Amen. J'aimerais pendant ce chant, nous allons chanter un magnifique chant, un chant du souvenir carrément. Pendant ce chant, j'aimerais vous encourager à faire une ou plusieurs de ces 3 choses et au courant de la semaine. Mais je veux vous encourager à faire cet exercice d'introspection, de vraiment regarder le chemin parcouru. De regarder aussi s'il y a juste l'esprit qui peut vous dire qu'est-ce qu'il veut faire émerger tout ça et de quelle façon est-ce qu'il veut vous rassurer, corriger, ramener sur le droit chemin, vous encourager, vous remplir de gratitude, quelle que soit la chose que l'esprit veut faire, il va le faire. Faites cet exercice d'introspection pour regarder le chemin. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de célébrer les merveilles de Dieu. Quelle merveille, quel exploit, quelle caractéristique de Dieu est-ce que tu veux élever et adorer aujourd'hui pendant ce chant? Et finalement, l'autre chose que tu peux faire, c'est de raconter, de dire, de prendre la décision aujourd'hui de dire oui, je vais continuer, oui, je vais commencer à raconter les merveilles de Dieu. Moi, je veux prendre cette décision-là de dire oui, je veux raconter ces merveilles cette semaine, la semaine prochaine et pour le reste de ma vie. Alors, levons-nous ensemble et qu'on chante ce chant de...